Shalom les coulins, bonjour à tout le monde, on est mercredi. Et donc le mercredi, eh bien, nous avons l'habitude d'avoir notre étude sur la parashat à Shavua Rabotai. Et donc, eh bien, rentrons directement, sans introduction, dans le vif du sujet. Parashat Toldot. Et alors, la première question qu'on doit se poser, et c'est une question générale, pas seulement sur notre parashat, mais une question générale. Peut-être l'une des difficultés, vous savez, quand on écrit un ouvrage, quand on écrit un commentaire, quand on écrit quoi que ce soit, c'est de trouver le titre. Eh oui, parce que le titre doit être en condensé, tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc, c'est compliqué de trouver un titre. Moi, personnellement, quand je prépare un chiour, ben, ça va me prendre presque autant de temps de trouver le titre que de préparer tout le cours. Et j'exagère presque pas. La tradition d'Israël va donner des titres à nos parachiotes. Oui, évidemment, ça n'a pas toujours été la même séparation. Mais quand on parle de notre séparation, qui a quand même un bon 1000 ans derrière elle, eh bien, la tradition juive lui a donné des titres. Elle leur a donné des titres à ses parachutes. Et donc, on a l'habitude de se dire que bah, le titre, c'est en fait le premier mot important de la paracha. Ça a du sens. Ça a du sens. Pourquoi pas ne pas faire un condensé de la paracha, mais le premier mot qui est important. OK. Mais à ce moment-là, nous nous trouvons devant un problème. Notre paracha commence en disant « Ve'ele toledot Yitzhak » et voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham, ainsi de suite. Et donc, on a décidé d'appeler cette paracha « Toldot ». J'ai envie de te dire « Lamalo ». « Toldot », les engendrements, c'est pas mal. Nachon. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, pour être exact, il y a un mois, il y a quatre semaines, eh bien, il y avait une autre paracha. Une autre paracha qui, elle, disait « Ve'ele toledot Noach. Les mêmes mots. Ve'ele toledot, le nom change. Seulement, là-bas, à l'époque, on n'a pas appelé la paracha toledot. On a appelé la paracha Noach. Ve'ele toledot Noach, on a appelé la paracha Noach. Donc, de deux choses l'une. Soit tu appelles notre paracha Yitzhak. Ve'ele toledot Yitzhak. Ou alors, la première, tu l'appelles toledot 1. Et ici, tu l'appelles toledot 2. Et la tradition juive nous explique que non. La première s'appellera Noach, ici elle s'appellera Toldot. Le premier mot important de la paracha, à l'époque de Noach, à l'époque de l'antédéluge qui va amener au déluge, eh bien, celui qui est central et important, le héros de l'histoire, c'est Noach. Ici, dans notre paracha, le héros de l'histoire, ce n'est plus Yitzhak. Celui qui va dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans le monde à ce moment-là du film, c'est les Toladot, les engendrements de Yitzhak, en l'occurrence, Yaakov et Esav. En d'autres termes, si là-bas elle s'appelait Noach, ici elle devra s'appeler Toldot, sans aucun problème. Alors, concentrons-nous justement sur ces Toladot. L'histoire est absolument incroyable, comme si elle ne se répétait pas. Rivka, comme Sarah avant elle, n'arrive pas à avoir d'enfant. Yitzhak va prier. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Yitzhak prie pour Rivka. Dans ça, je vais nous dire que Akadosh Baruch Hu mitave le tvilatam shel tzadikim. Que Akadosh Baruch Hu a une ta'ava, je fais volontairement pas de tradition, une ta'ava pour la prière des tzadikim. Ta'ava, c'est pas seulement une envie, c'est une envie qui est due à un manque. C'est-à-dire, si j'aime le chocolat, mais que je vis dans une fontaine de chocolat, je n'ai pas de tahava pour le chocolat. Je mange du chocolat. Mais lorsque j'ai envie, parce que je n'en ai pas et que je ressens ce manque, alors ça devient une tahava. Eh bien, Akadosh Baruch Hu mitave, il a une tahava pour les prières des tzadikim, lama. Eh bien, parce que les tzadikim ont tendance à ne pas prier. D'ailleurs, c'est bizarre, les tzadikim prient. Non, les vrais tzadikim, comme Yitzhak, ils ont tendance à accepter tout ce qui arrive en sachant que ça vient de Kadosh Baruch Hu. Et donc, Yitzhak, par excellence, il est Midat Adin. Donc, pour lui, la rigueur, si Dieu ne lui a pas donné d'enfant, ben Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Le Rav Ezra dira que si une paracha porte le nom d'une personne, c'est pour dire qu'il ne représente pas un exemple pour les générations et il prend ton exemple. J'ai pas compris. Si la paracha porte le nom d'une personne, c'est pour dire qu'il ne représente pas un exemple pour les générations. Ah, j'ai compris ce que tu dis. Tu dis Noach. J'ai compris. Noach, c'est pas un exemple pour les générations. De la même façon, tu diras Korach, c'est pas un exemple pour les générations. Shikushia, Maïmi Yitro. Yitro n'est-il pas un exemple pour les générations de tous les non-juifs qui ont décidé de s'attacher au peuple juif? Kushia. Kushia, il faudra que tu demandes au Rav Ben Ezra comment il répond à Yitro. Quoi qu'il en soit, Rabotai, dans notre histoire, comment ça se fait que le tzadik ne prie pas? Parce qu'il est matzdik et adin. Il accepte avec plaisir bah, tout ce que la Kadosh Baruch Hu lui fait. Donc, bah, il ne m'a pas donné d'enfant. Il n'a pas donné d'enfant. Aval, Yitzhak est censé être un des patriarches. Il n'y a rien de plus absurde pour un père de ne pas avoir de fils. Il va donc mettre Yitzhak et Rivka dans une situation absurde pour les obliger à prier. Et finalement, eh bien, ça marche. Ça marche. Vatar Rivka Ishto. Elle tombe enceinte. Et là, nous rentrons dans le vif de notre paracha. Vous savez, avant qu'on lise les versets, nous connaissons l'histoire de Yaakov et Esav, et on sait que Esav, c'est le méchant, et Yaakov, c'est le gentil. On a l'habitude de voir, tout d'un coup, on n'a même pas commencé à lire quoi que ce soit, Yaakov, c'est le bon, et Esav, c'est la brute. Pas du tout. Je te rappelle qu'il est retourné chez lui et n'a pas suivi la destinée d'Israël. Ah, mais mon ami, Yitro, c'est pas qu'il est retourné chez lui et qu'il a décidé de revenir, de redevenir idolâtre. Yitro, certes, c'est une marloquette s'il s'est converti ou pas, mais le Mandé Amar qui ne s'est pas converti, on nous dit qu'il est parti pour les gaillères Bene Umato. Pinchas également, il ne prendra pas la direction d'Israël. Ben, j'aimerais bien voir ça. Pinchas est celui qui reçoit Brit Keunat Olam. Tous les Kohanim Gdolim doivent sortir de Pinchas, et lorsqu'ils ne sortent pas de Pinchas, ça part en cacahuète, comme Elia Cohen. Donc, vraiment, il faut que tu me. Il va falloir que je te demande, Bevakasha, d'aller demander au Rav Ben Ezra, parce qu'on ne peut pas rester sur cette marloquette terrible. Donc, je demande au Rav Ben Ezra en quoi Pinchas n'est pas un exemple pour le peuple juif, et en quoi Yitro n'est pas un exemple, pas pour le peuple juif, mais pour le monde entier. Ok ? Donc, je te serai gré de bien vouloir aller lui demander. Mazakashou ! Excuse-moi, ça n'a rien à voir. Tu me dis dans ce paracha, on t'apprend que le successeur de Moshe, c'est Yoshua. Et alors, le rôle de Pinchas n'est pas d'être le successeur de Moshe. Le rôle de Pinchas, c'est d'être le successeur de Aaron. Et il a réussi à être le successeur d'Aaron. Donc, je ne vois pas en quoi il n'est pas un exemple à suivre pour tous les Kohanim. Donc vraiment, je te demanderai d'aller lui demander. Quoi qu'il en soit, Rivka tombe enceinte. Et j'ai dit, on ne peut pas... Non, il n'aurait pas pu. On ne peut pas voir simplement Yaakov comme étant le bon et Esav comme étant la brute. Il va falloir qu'on aille un tout petit peu au-delà de ses apparences. Vaitro tsetsu abanim bekirba. Avant de traduire le verset, de l'expliquer, comprenez-moi bien, à l'époque, aussi fou que cela puisse paraître, il n'existe pas encore d'échographie. Donc, Rivka, à la base, n'est pas censée savoir qu'elle a deux enfants dans le ventre. Si on ne lui dit pas, elle ne le sait pas. Vaidrotsetsu abanim bekirba, c'est pas elle qui le dit, c'est le narrateur. Va t'en mère. Et elle a dit, elle ressent que ça bouge énormément dans son ventre. Elle dit, va t'en mère. Imken, lamaze anori. Et là, les amis, la traduction littérale est peut-être la meilleure. La traduction du rabbinat va nous dire, si c'est ainsi, pourquoi cela m'arrive? Mais c'est absolument pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué, Imken, si c'est comme ça, lamaze anori. Pourquoi c'est moi? Oui, ça ne veut rien dire. Effectivement, mais c'est ce qui a marqué. Imken, lamaze anori. Pourquoi c'est moi? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Rashi va nous dire, quand on va regarder un petit peu dans le verset qui n'est pas compréhensible, il dit, vas-y, veitrotsetsu. Il dit, la Torah ne nous a pas expliqué ce que c'est que cette retsitsa. Et donc, il dit, je suis obligé d'utiliser le Midrash. Il dit que dans le Midrash, on dit que son ventre courait. En d'autres termes, quand elle passait devant Pitre Torah Shem Ve'ever, devant la tente de Shem Ve'ever, là où on enseignait la révélation prophétique, eh bien, son ventre, contraction, je veux sortir. D'un autre côté, quand elle passait devant les Pitre Avodah Zara, devant les tentes, les temples d'idolâtrie, eh bien, son ventre, il voulait sortir. Elle ne sait toujours pas qu'elle en a deux. Et ça, je veux que vous compreniez bien, c'est très important. Elle sait juste que cet enfant qui est dans son ventre, eh bien, d'un côté, il est attiré par la révélation du divin, de la prophétie. D'une autre part, il est attiré par la Avodah Zara. Elle demande, Imken, si c'est ainsi, Lama, Zéanochi. Oui, j'ai changé la ponctuation, mais comprenez bien de quoi il s'agit. Il y a deux façons de percevoir le dévoilement divin. Une qui s'inscrirait dans ce monde et l'autre qui le comprendrait comme étant extérieur et au-delà du monde. Le dévoilement de Dieu, Baolam Azé, lorsqu'on prend Dieu comme étant uniquement Baolam Azé, c'est de l'idolâtrie, parce que c'est limiter Dieu à ce monde. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier qu'il y a un dévoilement de Dieu, Baolam Azé. Comment s'appelle-t-il Dieu quand il se dévoile comme étant le maître de ce monde-ci? Eh bien voilà, quand il est le maître de ce monde-ci, nos ancêtres dans le désert en Égypte, enfin dans le désert, non, quand ils sortent d'Égypte, eh bien il y a Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer qui n'est pas rouge, et à ce moment-là, ils voient que Dieu est le maître du Olam Hazé, et donc à ce moment-là, ils disent « Zé Eli Ve'anveu ». Ça, Zé, c'est mon Dieu. En d'autres termes, le nom du dévoilement de Dieu lorsqu'il montre sa domination du Olam Hazé, c'est Zé. Zé, c'est le nom de Dieu, bah, Olam Hazé. D'ailleurs, nos amis grecs l'ont très bien compris puisqu'ils ont nommé le patron du panthéon grec Zeus. Zé. Zeus Zé. D'un autre côté, lorsque Dieu se dévoile de manière prophétique, lorsqu'il montre qu'il n'est pas seulement dans ce monde-ci, mais qu'il va donner quelque chose qui est du domaine de l'éternité, à savoir la Torah, la Nevoa, Dvar Hashem, à ce moment-là, il se fait appeler Anochi. Anochi Hashem Elohecha. Asher Otzeticha Me'eretz Mitzrayim. En d'autres termes, il y a ici deux dimensions du dévoilement de Dieu. Zé, dans le Olam Hazé, Anochi, dans le Olam Abba, on va l'appeler ça comme ça, Olam Ha'Elyon. Rivka, elle sent que son ventre, quand il passe devant, quand elle passe devant Pitre Torah Shel Shem Ve'Ever, c'est-à-dire ceux qui transmettent la tradition de la révélation de l'éternité, ça veut sortir. Lorsque elle passe devant les Pitre Avodah Zara, donc de la révélation dans ce monde-ci, ça veut sortir. Donc elle dit, Imken, si c'est comme ça, c'est qui le Dieu de cet enfant qui va naître? Lama, Zé ou Anochi? Zé ou Anochi? Rashi terminera en disant, Vayu merivim, dans le ventre, Mazé vayitro tsetsu abanim bekirba, Ayu merivim benachalat shnea olamot. Et là, comprenez-moi bien, on a l'habitude de dire, d'après cette explication de Zé Anochi, ça correspond très bien à ce qu'on a l'habitude d'entendre, que Esav, il voulait uniquement ce monde-ci, alors que Yaakov, il voulait le monde d'en haut. Esav, il voulait Batares, Yaakov, il voulait la Toiré. Mais les amis, soyons un tout petit peu logiques. Si Yaakov, il veut la Torah, Olam Haruach, et tout ça, et que Esav, il veut Olam Hazé, et j'ai envie de te dire, ben, alors, pas de problème. Il n'y a aucune raison de se disputer. S'il y a deux objets sur la table distincts et qu'il y a deux enfants, il y en a un, il veut celui-là et l'autre, il veut l'autre, mais il n'y a aucune raison de se disputer. Et là, nous dit Rashi, Ayu merivim benachalat shnei olamot. C'est-à-dire que les deux, ils veulent les deux. Certes, Esav a une prédisposition pour Olam Hazé, mais il veut aussi Olam Haba. Et certes, Yaakov a une prédisposition pour le Olam Haba, mais il veut aussi Olam Hazé. Et c'est là que la tension va arriver. Et à ce moment-là, Va-t-elle er l'idroche et Hachem? Parce que le seul qui peut répondre à sa question, Arifka, c'est Hachem. Qui seras-tu pour cet enfant? Va yomer Hachem là. Mazé va yomer Hachem là. Les amis, va yomer Hachem là veut dire, et Dieu lui a dit à elle. S'il y avait eu marqué seulement va yomer Hachem, shne goyim bebitner, on aurait très bien su, c'est-à-dire il y a deux peuples dans ton ventre. On aurait très bien su qu'il parle à Rivka. Donc, il n'y a pas besoin de marquer « Et Dieu lui a répondu à elle », puisque dans la suite de la phrase, on voit bien qu'il lui parle à elle. Donc, s'il y a marqué « là », ça veut dire « velolo ». C'est-à-dire que c'est une prophétie que Rivka reçoit qu'elle ne doit pas transmettre à Yitzhak. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis maintenant, parce que ça va avoir évidemment une incidence sur la suite. Rivka a une information que Yitzhak n'aura pas. ויאמר השם לה, שני גויים בביטנך, ושני לאומים ממאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יאבות צעיר. Qui te parle de dispute? Ils étaient censés se compléter. Exactement. Exactement. Qui me parle de dispute? Rashi. Qui me dit, היו מריבים בנחלת שני עולמות. שני עולמות. Maintenant, c'est fait. Effectivement, ils auraient dû se compléter. C'est ce qui était l'idéal. Nachon. Ça n'a pas marché. Attends, on va voir. Bekitsour, vayomer Hashem la, shne goyim bebitner, ou shne leumim, me me'aich yiparedu, ou leom mil'om yehematz, ve'rav yavod tzair. Hashem lui répond à Rivka, tu as deux peuples dans tes entrailles, deux peuples dans ton ventre, qui vont se séparer lorsqu'ils deviendront des leumim. Des nations. Ah, nous dit Rashi encore une fois, mais c'est Shtegoïm. Shtegoïm, nous dit Rashi, c'est mal écrit. Non, exactement. Exactement. Autant pour moi, je pensais que j'allais le dire. Et j'ai oublié de le dire. Tu as raison, très bien de me le rappeler. Il y a marqué au début de la paracha, va yater lo Hashem. Et là-bas, c'est clairement expliqué par nos sages, lo velola. Donc, si lo velo la, ici, c'est la velo lo, exactement. Mais Kitsou, Rashi nous dit, goïm, j'te goïm bebitner, deux peuples dans ton ventre, eh bien, n'est pas marqué comme il faut. C'est marqué geïm. Geïm, ça veut dire des puissants. Eh bien, Rashi nous dit, c'est qui ces deux puissants? C'est Rabbi ve Antoninus. Mais j'te goïm bebitner, Rabbi Uda Anasi, ve Marcus Aurelius Antoninus, Marc Aurel, César de Rome. Ma Kesher. Ma Kesher. Ma Kesher, je vais vous expliquer. Rabbi Antoninus étaient des copains. Au niveau historique. Ils se connaissaient, ils étaient amis. Et Antoninus va même exonérer Tibériade d'impôts, facilitant ainsi l'écriture de la Mishnah. Bien fait. Donc, il peut y avoir une osmose entre les descendants de Yaakov et les descendants de Esav. Oui, mais à une condition. Rabbi et Antoninus. C'est une époque où le débat pour savoir qui gère ce monde n'est plus un débat. Les Juifs ont été battus deux fois de suite. La Grande Révolte, la guerre de Bar Korva, c'est terminé. On est à l'époque plus ou moins 200. C'est terminé. Les Juifs ne sont plus les maîtres de ce monde-ci. Les maîtres de ce monde seront les Romains. Rabbi sera donc le maître du Olam Abba, du Ruach. Et Marcus Aurelius Antoninus va venir très souvent de poser des questions à Rabbi pour avoir sa vision d'un monde idéal. En d'autres termes, lorsque il y a séparation, que Esav gère Olam Hazé et Yaakov Olam Haba, ils peuvent être copains. Aval ushne leumim mimeaich yiparedu. Mais lorsque les deux ont des velléités nationales, c'est lorsque les deux veulent retrouver leur identité de nation, c'est-à-dire présente dans ce monde, à ce moment-là, ils seront obligés de se séparer. Lorsque Yaakov ne se suffit plus du Beth Amidrash, mais il veut retrouver son identité nationale, à ce moment-là, eh bien, ça ne marchera pas. Et c'est la raison pour laquelle le Talmud, dans le traité de Megillah, nous dira à la page 6, nous dit... Si on te dit Jérusalem est construite et Césarée est détruite, crois-le. Si on te dit Jérusalem est détruite et Césarée est construite, crois-le. Mais si on te dit Jérusalem est construite et Césarée est construite, ne le crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Césarée, c'était la ville que Hérode a construite au nom des Romains, à l'honneur des Romains, de César. Donc, si tu veux, c'était le fief romain en Eretz Israël. On veut te dire, soit Jérusalem, soit Césarée, qui sont construites dans ce monde. Dans ce monde, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Ça se dispute quand les deux ils sont en revendication nationale. Finalement, Makoresham, eh bien, Vayimeleu yemeal aledet, Veine tomim bebitna, Vayetzer rishon admoni kuloka aderet sear, Vayikra shemo esav. ואחר כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. Nous avons ici deux enfants qui vont naître. Et que les choses soient claires, au moment où ils naissent, ce sont tous les deux les enfants de Yitzhak, les petits-enfants d'Abraham, tous les deux des tzadikim. Bien sûr. Vaïkdelou anéharim. Vaïkdelou anéharim, c'est là que commencent les problèmes. Pourquoi ? Me dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Pourquoi les problèmes commencent à ce moment-là ? Parce que Yitzhak a fait une erreur. Il les a éduqués tous les deux pareils. Sans se concentrer sur la différence que pouvait être l'un comme l'autre. Parce que comprenez-moi bien. Venons, on essaye de se représenter deux secondes Yaakov et Esav. Vaïk de loin arim vaï Esav ish yodea tzaïd ish sadeh. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Alors là, je veux qu'on soit bien clair. Ils ont une quinzaine d'années. Je saute 15 ans en avant dans leur évolution. Je peux t'assurer que Esav, bon, il est au lycée, c'est le beau gosse ultime du lycée. D'abord, il est taillé en V. Le mec, il a une musculature incroyable. Il est le capitaine de l'équipe de foot. Je peux t'assurer que les biscottos, ils sont là. Le mec, il a une barbe de 3 jours, tu sais, comme ça, un petit peu bad guy, mais que toutes les filles raffolent. Il est beau gosse et il a un charisme incroyable. D'un autre côté, il y a son frangin. Ah oui, ce sont des faux jumeaux. Hein. Parce que le frangin, bah, physiquement, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'il a, je suis presque sûr qu'il a des lunettes. Il a inscrit au club de littérature de l'école. Et bon, il a eu des boutons d'acné en termes laméadrine. Hein, on l'appelle calculator. Hein. Donc, si tu veux, c'est barour que, d'ailleurs, tous les matins, quand Yitzhak et Rivka, ils emmènent les enfants à l'école, et ça, ils demandent toujours à descendre un petit peu avant parce qu'il ne veut pas qu'on le voit arriver à l'école avec Yaakov. Parce que, tu comprends, Yaakov, c'est le souffre-douleur de l'école. Hein, c'est le chnoun. C'est personne ne kiffe, il n'a pas de pote. Alors que les savent, attends, elle a la classe. Et d'ailleurs, je suis presque sûr que tous les matins, il y a des mecs de l'école qui martyrisent Yaakov, qui l'enferment dans son placard, dans son grenier, dans son casier, ce que tu veux. Ah ben oui, c'est ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je les vois. Yaakov ou Ishtam Yoshev Oalim ou Shalem. Tam, ça veut dire Shalem. Shalem dans quoi ? Dans la dimension de la Shevet Oalim. C'est-à-dire qu'il a pris la dimension de la Nohi et il l'a fait sienne à 100%. Et Sav a décidé de faire sien à 100% Olam Asadé. Yodea Tzaïd ou Ishsadé. Nous avons donc ici deux hommes. Deux hommes qui ont choisi un destin complètement différent. Ils avaient des prédispositions pour cela, mais ils ont décidé d'embrasser ces prédispositions et d'en faire une véritable séparation. Nous avons donc un homme qui est un homme au Beth Amidrash et un d'autre côté, un homme businessman qui sait gérer ce monde. Yitzhak, c'est le papa de la famille. C'est lui qui a le rôle de choisir un successeur. Vous avez devant vous un mec qui est un Talmid Racham Gadol, Bémet, mais qui est incapable de travailler. Ou un mec qui est un Talmid Racham Gadol, mais qui est incapable de savoir comment on gère un budget. Et vous avez d'un autre côté un mec qui ne connaît pas vraiment tout le Ritva et tout le Rashbod, mais c'est quelqu'un qui gère ce monde. Mais qui tu vas choisir pour guider la famille ? Barou, que Yitzhak, il va choisir Esav. On aurait tous choisi Esav. Vayehav Yitzhak et Esav, Kitsaïd Befiv. La Torah le dit clairement, Kitsaïd Befiv. Littéralement, parce qu'il sait ramener à manger. Il sait être un chef. Il sait être un mec responsable. Rashi vient nous donner une autre explication. Il dit que Esav avait une question. Une question fondamentale. Et encore une fois, pour l'instant, on ne sait pas que Esav, ça va être un rachat. Pour l'instant, c'est un tzaddik. Et pour l'instant, c'est le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham. Donc, il a des grandes questions. Me dit Rashi que Esav, il avait une question. Vous savez, Esav, il est assouille, il est chalem, il est parfait. Esav ne peut pas accepter qu'il y a un dévoilement divin manquant. Et donc, Esav, nous dit Rashi, il avait une question. Enfin, si Rashi, c'est le Midrash. Il dit qu'il y avait une question fondamentale. Il disait, papa, Ech me'asrim et ha melach ve et ha teren. Me'asrim le'aser, c'est dévoiler la kedusha qu'il y a dans ce monde. Et ça le comprend très bien. Et donc il dit, ok, très bien. Mais papa, tu m'as expliqué qu'il y a des choses qu'on ne fait pas le maaser. Melach, le sel, teven, le foin, la malon. Ech me'asrim, melach ve teven. Pour la halakha, on ne fait pas de maaser sur le sel ni sur le foin, parce que le foin, d'un côté, c'est psolète, c'est des déchets, et on ne veut pas trouver de la sainteté dans les déchets. Et le melar, c'est du minéral, et le minéral est trop loin de la vitalité, et on n'arrive pas à y dévoiler la sainteté. Mais ça, il dit, mais non, mais c'est pas possible. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est soit tout, si j'arrive pas à tout, c'est qu'il y a un bug dans tout le reste. Donc pour Esav, c'est ou tout ou rien. Yitzhak, il comprend tellement, tellement son fils. Je vous rappelle que Yitzhak, quand il avait fait le tour du Olam Hazeh et qu'il a compris qu'il manquait quelque chose, il n'a pas cherché d'excuses, il n'a pas essayé de dire « j'accepte le manque ». Non, il est parti 2 ans au Gan Eden, comme ça nous dit Razal. Donc il comprend très bien le problème de son fils. Mais non, mais il n'est pas du tout… Mais au contraire, tu dis « il est subjectif Yitzhak, il est attiré par le champ ». Absolument pas. Ce n'est pas de la subjectivité. Il sait très bien que c'est Baolam Hazeh qu'il faut dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Que Baolam Haba Hazeh Afemeon, c'est Kalmidai. Baolam Hazeh. Donc, Dafka ou Yotse la Soir Basadeh. Dafka. Donc, ce n'est pas du tout de la subjectivité. C'est parce qu'il a très bien compris. Et donc, il va choisir Yitzhak. Yitzhak va choisir Esav. Mais on nous dit Verifka Oevet et Yaakov. En d'autres termes, Rivka, elle va plus se pencher pour Yaakov, lama, mais parce que Rivka, elle a une prophétie que Yitzhak n'a pas. Elle sait que ça va être dans les mains de Yaakov. Vayazed Yaakov Nazid. Vas-y, Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov est en train de cuire un plat de lentilles, nous dit Razal. C'est le jour où Avraham meurt. Et donc, il va faire Seudat Avraha. Il prépare son plat de lentilles pour son père Yitzhak, qui est en deuil. Mais le jour où Avraham meurt, c'est le Mashber de Esav. Bien sûr. Parce que Avraham est celui qui a montré le chemin de Anochi. Alors que Yitzhak avait montré justement, c'est pas seulement qu'il était Yotzé la Soir Basadé, il a creusé des Be'erot, il a montré que c'est dans ce Olam Hazeh que le tzaddik qui doit agir, mais Avraham est celui qui a dévoilé Anochi. Dieu dira à Avraham Anochi otzeticha meurkazim. Lorsque Avraham meurt, Esav ne sait plus comment trouver Anochi. C'est ce qu'il dit ici dans le verset. Vayavo Esav min hasadeh vehu ayef. Mazé ayef. Ayef, on a l'habitude de dire c'est fatigué. Mais non. Fatigué, genre. Non, pas du tout. Pas du tout. Dans les brachot du matin, on dit. C'est une petite digression. Comment est-ce que je comprends qu'on déduit mincha de la soir basadé? C'est une grande digression que je ne pourrais pas faire là maintenant. Ayef, on a l'habitude de dire dans les brachot du matin que ça veut dire c'est. Fatigué, donc celui qui me donne la force physique. Mais non, parce que dans les brachot du matin, on dit Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, Anoten la Yaef Koach. Être fatigué physiquement, c'est Yaef. Ayef, comme ici, on peut le retrouver dans le livre de Yov. Ayefa nafshi mimavet. Ayef, c'est la neshama. Umagia mina sade. Et c'est là-bas qu'il a essayé de trouver Anochi, veu ayef. Lo matzliach. Vayomer Esav el Yaakov, al iten ina mina adom adom azé. Donne-moi de ce olam azé, qui ayef Anochi. Parce que je suis fatigué de chercher Anochi. Je décide que maintenant je ne serai attaché que à Olam Hazeh. Alken Karashmo Edom. Le rouge, c'est la couleur de ce monde, la couleur de la vie. Bah, Olam Hazeh. Vayomer Yaakov, Micha Kayom et Bechorat Rali. Yaakov comprend. Tu ne veux plus du tout de Olam Ha'Elyon. Donc finalement, Gama Olam Hazeh, pour toi, il n'a plus d'importance. Puisque le Bechor, c'est celui qui gère Olam Hazeh. Pourquoi ? Pour le dévoiler. Bébet Amikdash, normalement, on parle avant les Kohanim, tout ça. Vayomer Esav, hine Anochi, Olech Lamut. C'est pas lui. Nous, Bémet, parce qu'il n'a pas mangé de la journée, alors il va mourir. Nous, Bémet. Mais non, il a lu Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Dieu est mort et j'étais à son enterrement. Il dit Anochi, Olech Lamut. Anochi, Olech Lamut. Et donc il dit Velamaze, li Bechora. Si je me détourne complètement du dévoilement de Dieu, Baolam Elyon, Gam Baolam Azé, En Chashivut. Il n'y a plus d'importance également à ce monde-ci. Et à ce moment-là, au moment où Esav vend le droit d'Enes, vend la Bechora, c'est-à-dire à Yaakov, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Une métamorphose est en train de commencer chez Yaakov. Il commence à devenir un peu Esav. Plus tard dans la paracha, ça viendra le moment de donner la bracha, c'est-à-dire que Yitzhak donne la bracha à son successeur. On a dit, évidemment, il choisit Esav. Finalement, vous connaissez l'histoire, Yaakov va se déguiser et va arriver dans la tente, déguisé avec des peaux de bête, déguisé en Esav. Et moi, je ne comprends pas. Parce que le mec, il a mis des peaux de chèvre sur ses bras, alors ça y est, on se trompe. Même si tu me dis que Yitzhak est aveugle, Asma, il ne va pas reconnaître son fils. Nous dit la Torah que lorsque Yaakov rentre dans la tente, Veloï Kiro, Yitzhak ne le reconnaît pas. Et je veux que les choses soient bien claires. Il n'est pas bête. Il n'est pas sénile, Yitzhak. Quand il rentre dans la tente, nous dit Rashi, Uroé Petar Ganeden. Yitzhak, il n'est pas aveugle. C'est juste qu'il y a certaines choses qu'il ne voit pas et d'autres qu'il voit. Lorsqu'il voit Petar Gan Eden, il comprend que cette personne qui vient de rentrer dans la tente, c'est ce qu'il faut. Et il va lui donner la bracha. Mais où l'oï kiro? Parce qu'à ce moment-là, au moment où Yaakov rentre dans la tente de Yitzhak, c'est pas parce qu'il est bête, Yitzhak, qu'il ne l'a pas reconnu, parce que c'est Bémet, pas Yaakov qui rentre dans la tente. Au moment où il rentre dans la tente, avec les mains de Esav, il devient une nouvelle identité. Ce n'est ni Esav qui est rentré dans la tente, ni Yaakov qui est rentré dans la tente. Celui qui est rentré dans la tente pour prendre la beracha, c'est un monsieur qui s'appelle Akol Kol Yaakov Vayadaim Yede Esav. La voix est la voix de Yaakov et les mains sont les mains de Esav. Les amis, c'est une nouvelle identité qui rentre dans la tente. C'est pour ça que Yitzhak ne le reconnaît pas, mais il comprend que c'est ce qu'il faut. Akol kol Yaakov et Adam et Esav. L'union de Yaakov et Esav. Yitzhak pensait que cette union devait être Esav qui devient un peu Yaakov. Kadosh Baruch Hu lui expliquera non. c'est Kodem Kol, à Roche Shel Yaakov, à Kol Shel Yaakov, qui peut influencer sur les mains de Esav. Mais c'est qui, ce à Kol Kol Yaakov et Adaim et Esav? Eh bien, les amis, Yaakov a muté, exactement. Il s'est métamorphosé. En quoi? Eh bien, Israël. Celui qui est rentré dans la tente à ce jour-là, ce n'est pas Yaakov, ce n'est pas Esav, c'est la fusion des deux qui s'appelle Israël. Cette métamorphose, pour l'instant, elle est en devenir. Elle a 5 étapes. La première, lorsqu'il prend la Bechora. La deuxième, ici, quand il prend la Bracha. La troisième, lorsqu'il se marie avec Léa, la femme qui était destinée à Esav. La quatrième, lorsqu'il se bat avec l'ange de Esav. Et la cinquième, lorsqu'il arrive à Bethel et que Dieu l'appelle finalement Israël. Israël, c'est à Kol, Kol Yaakov, Vayadaim Yede Esav. Israël est cette dimension qui est la nôtre, qui est capable de dévoiler Zé, Vé, Anori. Oui, ça aurait pu être réalisé par Yaakov et Esav, qui auraient travaillé main dans la main. Mais puisqu'ils ne travaillent pas main dans la main, alors il faut qu'il y en ait un qui fasse le boulot des deux. La paracha de cette semaine nous explique que celui qui fera le boulot des deux, c'est un Yaakov transformé qui va prendre les qualités de Esav, les faire siennes et devenir Israël. Shabbat shalom, les koulams.